Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs, du lundi au vendredi entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, un socialisme états-unien est-il possible? En 1906, un penseur socialiste allemand, Werner Sombart, remportait un grand succès en affirmant que l'Amérique n'était pas une terre de socialisme. Pourtant, nombre de militants révolutionnaires déçus par l'Europe l'avaient quitté dans la deuxième moitié du 19e siècle pour un pays continent dans lequel ils voyaient un espoir justement de ce même socialiste. Les livres de Jack London et par exemple d'Upton Sinclair sont là pour en témoigner. Or, le clivage entre le Parti démocrate et le Parti républicain a tout au long du XXe siècle étouffé cette possibilité d'un socialisme états-unien jusqu'à ce que la candidature de Bernie Sanders en 2016 et à nouveau en 2020 témoigne d'un courant situé à gauche du Parti démocrate. Les récentes défaites de Bernie Sanders lors du Super Tuesday et encore des primaires démocrates d'hier semblent momentanément contrarier cette hypothèse. Nous en discutons ce soir avec nos quatre invités. Mathieu Magnodex, bonsoir. Vous êtes au téléphone en duplex avec nous depuis New York dans les studios de nos confrères de la NPR, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, correspondant pour Mediapart aux États-Unis et auteur de Génération Ocasio-Cortez aux éditions La Découverte, les nouveaux activistes américains. On en parlera avec vous. Mathieu Bonzon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en études américaines à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Laurence Nardon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI et vous couvrez la campagne américaine de 2020 en lançant une série de podcasts en partenariat avec Slate. Cette campagne, ce podcast s'appelle Trump 2020. Et enfin, Lex Paulson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de rhétorique et de plaidoyer à Sciences Po Paris, directeur d'une école associée chez SIAM, donc c'est de l'intelligence collective, vous en parlerez également avec nous, et vous avez participé entre autres à la campagne de Barack Obama en 2008.
Nous construisons un mouvement qui ne peut être stoppé. C'est un mouvement de justice. C'est un mouvement de justice économique, de justice sociale, de justice raciale, de justice environnementale. Et quand des millions de personnes se soulèvent et se battent, rien sur Terre ne peut les arrêter.
Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Bernie Sanders, non pas dans la conférence de presse qu'il est en train de donner en ce moment même pour dire qu'il continue le combat malgré sa récente défaite justement face à Joe Biden, mais c'était lors d'un meeting en Caroline du Sud, fin février. Il y déployait en une phrase simplement, Laurence Nardon, ce que pouvait être justement le programme d'un candidat dit socialiste aux États-Unis aujourd'hui, justice environnementale, justice sexuelle, justice raciale, etc., etc.
Oui, mais je pense que si on était sérieux, il faudrait qu'on commence par définir le mot socialisme.
Bien sûr, on est sérieux, c'est ce qu'on va faire.
Une définition qui n'est pas la même en France et aux États-Unis déjà, enfin dans le langage journalistique en tout cas, puisque nous, socialistes, enfin, le parti socialiste qu'on a chez nous est aujourd'hui à peine de centre-gauche, alors que le mot socialisme, le terme socialisme aux États-Unis correspond à quelque chose de beaucoup plus à gauche, puisque ça veut dire communiste en réalité. Et lorsque Bernie Sanders, qui n'a jamais adhéré au Parti démocrate, qui est plus proche des Democratic Socialists of America,
dont on parlera dans un instant,
se définit comme socialiste, c'est quelque chose qui est pour les Américains beaucoup plus à gauche, voire peut-être à l'extrême gauche. Et là, ça réintroduit tout de suite une contradiction, parce que il est vu comme ça par l'opinion publique américaine, comme quelqu'un de très à gauche et qui le revendique. Et de nouveau, quand nous, Français, on regarde son programme, donc celui qui justice sociale, justice de genre pour les minorités, raciale, pour l'écologie, ouais, etc., on n'est pas non plus à l'extrême gauche en réalité, pour nous, Français.
Et pourtant, Lex Paulson, il y a une longue histoire de ce socialisme en Amérique, comme je disais en ouverture de cette émission. Cette histoire remonte au moins au milieu du 19e siècle, avec des militants fourriéristes, des militants qui veulent créer des utopies cabétiennes ou cabétistes en plein cœur de l'Amérique, et qui vont progressivement être plus ou moins mangés par le système américain jusqu'au début du 20e siècle.
manger, peut-être, ils ont aussi porté une grande influence sur ce qu'on appelle le mouvement progressiste aux États-Unis, les plus grandes réformes à partir de fin 19e siècle sur des conditions de travail, le minimum wage, l'abolition du travail pour les enfants, le début de la sécurité sociale aux États-Unis. On doit énormément à ces mouvements de militants, beaucoup de syndicalistes, mais aussi des personnes qui ont milité pour les droits de femmes, les droits d'enfants, etc. Et le socialisme, au départ, aux États-Unis, c'était une critique du capitalisme. Donc, cette dialectique-là était toujours présente et ça reste toujours présent. Ce qui est différent là maintenant, je trouve, qu'il y a 100 ans, c'est que cette liaison entre socialistes et progressistes est devenue une différence de mentalité, ce qu'on appelle une théorie de changement politique. Que les militants de Bernie Sanders, ils pensent que et le Parti démocrate et le Parti républicain sont corrompus, à quel point que c'est mieux de tout renverser le système que de reformer à l'intérieur. Et Barack Obama et les personnes de son genre, Joe Biden, Pete Buttigieg, etc., sont des personnes qui partagent pour la grande partie les mêmes objectifs que les électeurs de Sanders, mais ils ont toutes une différente attitude par rapport au système existant, de possibilité de réformer le système.
Vous êtes avec nous, Mathieu Manuelex, depuis New York et les studios de la NPR. Je vous propose une toute petite lecture très brève. C'est tiré du Talon de Fer, 1908, de Jack London, au milieu de la consternation que sa révélation avait causée. Ernest reprit la parole. Une douzaine d'entre vous ont affirmé ce soir l'impossibilité du socialisme, puisque vous avez défini ce qui est irréalisable. Permettez-moi maintenant de vous démontrer ce qui est inévitable. C'est la disparition non seulement de vous autres petits capitalistes, mais aussi des gros capitalistes et des trusts eux-mêmes à un moment donné. Souvenez-vous que la vague de l'évolution ne revient jamais en arrière. C'est évidemment l'espoir de Jack London quand il écrit Le Talon de Fer en 1908 que de voir le socialisme advenir aux États-Unis. Et ça n'est pas le même espoir que celui que connaissent par exemple ceux et celles qui sont autour de ceux que vous avez appelés la génération Ocasio-Cortez, donc Alessandra Ocasio-Cortez, pour votre livre, Mathieu Hanaudiex.
Oui, je crois qu'il y a une vraie tradition, vous l'avez dit, du socialisme aux États-Unis. En 1912, Eugene Debs, le dirigeant du Socialist Party of America, obtient 6% des suffrages à la présidentielle. On pense qu'à ce moment-là, qu'il y a une vague qui est possible. Puis il va arriver la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide.
Et la Première Guerre mondiale avec la position pacifiste de Debs, qui ne veut pas participer à la guerre par pacifisme internationaliste et qui va d'une certaine façon finir sa carrière en partie en prison puisqu'il va être enfermé justement pour ses positions pacifistes. Donc effectivement, ça ne marche pas.
Exactement. Mais en même temps, et pendant des années, du coup, le DSA, il y a encore quelques années aux États-Unis, le Democratic Socialists of America, l'organisation des socialistes américains, ne dites pas parti, mais organisation. Attention, c'est très important. Sinon, leurs dirigeants ne vont pas être d'accord. Le DSA était une toute petite organisation quand Trump a été élu. C'est 5 000 adhérents. Aujourd'hui, on est à 10 fois plus d'adhérents, au minimum. Ce qui est intéressant, c'est que, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, le socialist label, le nom de socialiste, est encore vu comme une insulte, et probablement que en 2016 comme en 2020, eh bien c'est quasiment une insulte à participer à ne pas alimenter la dynamique derrière Bernie Sanders. Et en même temps, le socialiste tel que le décrit Bernie Sanders, c'est assez intéressant parce qu'en fait ça s'inscrit tout simplement dans la tradition du New Deal de Franklin Delano Roosevelt, donc le président démocrate qui a lancé le New Deal dans les années 30.
D'ailleurs, il reprend le terme de New Deal pour parler d'un Green New Deal aussi.
Exactement. Et en fait, le socialisme à la Sanders s'est défini de façon extrêmement pragmatique, même si lui-même, dans la fin des années 70, par exemple, défendait les nationalisations partielles de l'économie. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. D'ailleurs, au grand dam de certains gens plus à gauche que lui aux États-Unis. Et en fait, il défend aujourd'hui son socialisme démocratique, comme il l'appelle, pour justement se dissocier des expériences autoritaires. C'est une série de droits. Hein. Il a défini dans plusieurs discours, c'est le droit au logement, le droit à un climat, tout simplement à un salaire qui permet de vivre, le droit à une planète et à un environnement sain. Et donc, c'est ainsi qu'il a avancé et qu'il a décliné tout son programme pendant cette présidentielle, en essayant justement, et c'est ce que font notamment des gens qui l'ont aidé pendant cette campagne, notamment donc Alexandria Ocasio-Cortez, la jeune élue de New York, qui est une élue radicale au sens américain, donc de gauche, mais qui peut-être arrive à décliner de façon un peu plus actuelle, notamment vis-à-vis des jeunes générations, le programme de Bernie Sanders. Ce que ces gens ont essayé de faire, c'est d'essayer de montrer comment il y a une telle urgence sociale en termes d'inégalité climatique aux États-Unis et dans le monde, mais en particulier aux États-Unis, que en fait ce que propose Bernie Sanders est du bon sens. C'est-à-dire ils ont tenté pendant cette campagne de faire passer finalement toutes les propositions ambitieuses dans le contexte américain que porte Bernie Sanders comme des propositions de bon sens qui vont tout simplement changer la vie des gens.
Mathieu Bonzon, vous êtes maître de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vous êtes spécialiste d'histoire américaine et sociologue. Vous vous intéressez à ce Democratic Socialist of America, ce parti, le DSA, aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont, ils ont une nostalgie ou est-ce qu'ils ont un lien avec ce qu'on a raconté au tout début de cette discussion, c'est-à-dire avec cette longue histoire d'un socialisme américain de la seconde moitié du 19e siècle et de la première moitié du 20e, ou est-ce que, d'une certaine façon, ça leur sert plus ou moins de référence lointaine, mais qu'au bout du compte, ils sont en train de créer un autre type de socialisme aux États-Unis?
Je dirais que dans leur démarche spontanée, ce sont des questions qui ne sont pas, enfin, qui sont pas à l'origine en fait de leur intérêt pour le socialisme. Et il y a plutôt une démarche qui consiste à être exposé à de nouvelles idées, notamment lors de la campagne Sanders en 2016, et de tout simplement commencer par chercher sur Google qu'est-ce que c'est que le socialisme. Enfin, il y a vraiment eu des statistiques sur les moteurs de recherche qui ont montré ça et qui ont montré que les
c'était tellement oublié d'une certaine façon qu'il
fallait
voir Google.
Il fallait reprendre dans une sorte de dictionnaire, dans un Wikipédia politique, ce que c'était que le socialisme. Et en fait, les contenus en ligne de meilleure qualité qui existaient sur le sujet ont connu un certain engouement. Et je m'intéresse aussi à un magazine qui s'appelle Jacobin qui a bénéficié grandement aussi de cet intérêt pour ce mot-clé et pour d'autres mots-clés qui lui sont associés. Et Jacobin a beaucoup travaillé en même temps.
Jacobin comme les Jacobins.
Exactement. Inspiré par le jacobinisme français, entre autres. Qui a en même temps pour mission, en partie, qui se donne pour mission de revisiter l'histoire des États-Unis et de refaire connaître toute une partie de cette histoire oubliée à un nouveau public, à une nouvelle génération politique.
Lex Paulson, peut-être il faudrait citer ici le nom de quelqu'un qui est très connu en France et en Europe, c'est Howard Zinn, qui a été membre justement de ce socialisme américain et qui est le grand historien d'une histoire populaire, qui a d'ailleurs inspiré en France et ailleurs d'autres histoires populaires dans chacun des pays d'Europe, qui donc est quelqu'un qui a participé justement à forger une sorte de corpus sur l'idée qu'il faut redonner leur place aux minorités, aux peuples, dans l'histoire américaine.
Et il a porté une grande influence, surtout après Matt Damon dans Good Will Hunting a fait référence à Howard Zinn dans une scène assez connue aux États-Unis. Oui, c'est effectivement, et j'ai en fait enseigné un chapitre le socialiste sur socialisme à Sciences Po aujourd'hui là, juste par coïncidence. Et ce qui est intéressant chez Zinn, c'est que son attitude par rapport à la révolution, que quelle était la finalité du socialisme, c'est la révolution du système, et que de participer aux élections, c'est une absorption d'énergie qui peut être plus utile dans l'action directe contre le capitalisme, la réappropriation de le moyen de production, etc. Et je crois que c'est ça qui, après la guerre froide, a beaucoup changé dans les attitudes de jeunes socialistes aux États-Unis, que même s'ils cherchent de tout changer dans le système capitaliste, les révolutions socialistes ont fait énormément de dégâts, d'injustices, et ces évidences sont aussi fortes que on peut pas lutter pour les mêmes objectif qu'il y a 100 ans.
Vous voulez dire qu'ils sont plutôt plus légalistes d'une certaine façon, ces jeunes socialistes, ils veulent passer par le vote traditionnellement, c'est ça que vous voulez dire?
Ou bien ils gardent cette même mentalité que le système est corrompu, et la gauche et la droite est corrompu, mais que de faire une révolution comme Che Guevara, c'est plus possible et ça va pas attirer des recrues sérieux sur le terrain.
Vous qui avez travaillé pour la campagne de Barack Obama en 2008, il a même été qualifié de socialiste alors que son programme n'avait rien de socialiste, donc ça voulait dire que c'était encore en 2008 une sorte d'insulte vue par les républicains que de qualifier quelqu'un qui était un peu plus à gauche mais qui était vraiment de centre, en l'occurrence Barack Obama, comme étant un socialiste encore à ce moment-là.
Oui, et ça c'est clair que c'était par un abus de vocabulaire. Les Français ont bien réussi à avoir une certaine sérieux sur la définition du socialisme. Mais aux États-Unis, la droite est bien rencadrée les mots. Mais c'est clair que Obama, comme les socialistes il y a 100 ans, cherchait plus d'assurance sociale, plus de contrôle sur Wall Street et les excès de capitalisme. Donc les objectifs restaient, mais la mentalité, ce qui est possible, le champ de possible a beaucoup changé.
Laurence Nardon, vous avez commencé cette discussion en nous expliquant bien qu'il fallait ne pas confondre le socialisme à l'européenne au socialisme avec le socialisme à l'américaine ou états-unien. Néanmoins, effectivement, quand on regarde, on voit bien qu'il y a ici une tendance à vouloir, effectivement, pour les gens de gauche en tous les cas, à regarder cette candidature de Sanders comme une sorte de bénédiction, en espérant soit Ocasio-Cortez ou d'autres arrivant au pouvoir. On voit combien les vidéos d'Ocasio-Cortez dans ses déclarations publiques sont partagées par tout un tas de milieux de gauche en France, par exemple. Néanmoins, ça marche pas. Il faut bien quand même voir que cette campagne de Sanders, comme celle d'Elizabeth Warren, qui était aussi considérée comme étant plutôt plus à gauche que Joe Biden, eh bien, elles sont arrêtées pour l'une et en voie peut-être d'arrêt pour l'autre.
Oui, et cette campagne des primaires américaines, donc qui a commencé début février, finalement s'est simplifiée assez rapidement puisqu'il y avait
ça s'est décanté très vite.
Oui, c'est ça. Ça s'est décanté très vite, très rapidement. Il y avait pas mal de candidats du côté des modérés. Donc maintenant, il n'y a plus que Joe Biden. Et puis il y avait Warren et Sanders du côté des radicaux, pour j'emploie ce terme facilement. Et Warren, depuis avant Noël en réalité, avait déjà fortement chuté dans les sondages de manière très brusque et qui s'explique par une mauvaise prestation dans un des débats télévisés fin novembre où elle a donné des explications très confuses qui très étonnant de sa part parce qu'elle était extrêmement au point sur tous les dossiers. Et bien là, elle a trébuché sur des questions sur son programme de réforme de l'assurance santé, Medicare for All. Elle n'a pas su bien s'expliquer et ça a été un peu le déclencheur de sa chute. Et aujourd'hui, de manière tout aussi surprenante, on voit Sanders qui n'a pas réussi à transformer l'essai. Alors une première explication au succès donc du modéré Joe Biden jusqu'à aujourd'hui. Enfin, arrêtons-nous aujourd'hui, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais enfin, oui. Aujourd'hui, Biden semble quand même très très bien parti et les autres, et notamment Bernie Sanders, en mauvaise position. Une première explication, sous réserve de ce que diront mes condisciples ce soir, c'est que pour les démocrates aux États-Unis, il y a quand même une volonté supérieure, semble-t-il, qui est celle de battre Donald Trump en novembre prochain. Et c'est toute la notion que Biden a essayé de vendre pendant toute sa campagne, qui est celle de l'électabilité, le fait qu'il puisse être bien placé pour battre Trump.
On l'écoute d'ailleurs ce matin, après ses victoires dans le Michigan, le Mississippi, le Missouri et l'Idaho.
Pour moi, c'est plus qu'un comeback pour notre campagne. C'est un comeback pour l'âme de notre nation. Je veux remercier Bernie Sanders et ses soutiens pour leur énergie sans faille et leur passion. Nous partageons un but commun et ensemble, nous battrons Donald Trump. Nous le battrons ensemble.
Mathieu Magnodex, c'est une main tendue qui ressemble aussi un peu à un couteau dans le dos, parce que quand on commence à dire à son candidat qui est en face de soi, eh bien, je vous tends la main alors qu'il n'a pas encore perdu, c'est déjà qu'on pense qu'il l'a perdu.
Oui, mais il y a une réalité politique, c'est que Bernie Sanders a énergisé, si on peut dire, c'est pas un très beau mot, mais a mis de l'énergie dans cette campagne et a mobilisé des parties de l'électorat. Il a, par exemple, mobilisé les jeunes, pas assez, visiblement, au vu des résultats, puisque les jeunes, globalement, ne sont pas assez allés aux urnes. Son pari n'a pas marché dans les proportions qu'il souhaitait, mais quand même, leur participation a un peu augmenté. Simplement, c'est de l'autre côté que, du côté, on peut dire, modéré, centriste, que la participation, elle, l'électorat traditionnel du Parti démocrate a massivement augmenté. Donc, et en effet, dû à cet effet, il faut battre Trump, qui semble être tout à fait majeur dans les préoccupations des gens. Il y a plein de témoignages. Moi-même, j'ai rencontré des gens qui étaient plutôt d'accord avec l'idée que Par exemple, il faut une sécurité sociale universelle sur les modèles européens, ce qui n'existe pas aux États-Unis, ce qui pose des problèmes quand même extrêmement importants
dans la vie des
gens. Et pas sur
le modèle tel qu'il a été construit par Obama. Et
Biden, voilà, c'est aller plus loin en tout cas, avec une option quasi, avec de public, rendre public en fait ce système. Mais en même temps, les gens disent oui, mais Sanders, il va nous faire perdre face à Trump. Sanders va nous faire perdre, par exemple, moi, localement, mon élu qui est plutôt modéré, il est bien là parce qu'il arrive à avoir des voix des républicains. Et là, si Sanders qui est président, ben, ça passera pas à la prochaine élection. Mmh. Donc il y a tout un certain nombre de calculs comme ça qui rentrent en ligne de compte. Et les électeurs démocrates, quelles que soient leurs orientations politiques ces derniers temps, et en particulier les modérés, se sont posés énormément de questions qui serait le meilleur candidat pour battre Trump. C'était vraiment leur interrogation principale. Il y a juste quelque chose que je voudrais ajouter par rapport à voilà ce qui s'est dit auparavant, c'est que le socialisme américain tel qu'il est aujourd'hui porté par Sanders, Ocasio-Cortez, d'autres élus à plusieurs échelons, s'hybride aussi d'une tradition qui est une tradition qu'on appelle aux États-Unis populiste. Alors on va pas la confondre avec ce qu'on entend en France par le populisme donc mettons ça de côté, mais en tout cas la tradition populisme américaine, c'est une tradition comme ça qui à la fin du 19e siècle, c'est une révolte qui s'organise dans un parti, le People's Party, des paysans américains ruinés de l'Ouest et du Sud des États-Unis contre les trusts industriels, contre Wall Street. Et cette tradition, elle est extrêmement vivace. Elizabeth Warren, par exemple, l'a portée aussi dans cette campagne. Et c'est aussi ça qui a ressurgi au moment d'Occupy Wall Street en 2011, au moment de la crise financière, évidemment un peu avant. Et c'est ça que la campagne de Bernie Sanders aussi a incarné. Et c'est, si vous écoutez ce que dit régulièrement Alexandria Ocasio-Cortez, c'est ce discours aussi qu'apporte, c'est-à-dire nous seuls pouvons changer notre destin collectif, organisons-nous, parce que les élites ne vont pas le faire pour nous.
Oui, Mathieu Bonzon.
Oui, je partage l'idée que la campagne Sanders a eu beaucoup d'influence sur le plan des idées, que beaucoup des choses, des thèmes sur lesquels il était un petit peu seul, notamment en 2016, ont beaucoup fait leur chemin dans la société américaine et se sont retrouvés dans les paroles et programmes de candidats rivaux cette année. Je pense d'ailleurs que ça permet de faire le pronostic qu'il va tenter de se maintenir pour essayer de prolonger le plus possible au cours de ses primaires l'influence qu'il a pu avoir par ses prises de position, sa participation au débat. Et sur le plan de la question de l'électabilité, enfin c'est encore un anglicisme, mais en tout cas l'idée de choisir un candidat qui aurait le plus de chances de gagner ensuite à l'élection, je pense que les démocrates ne sont pas forcément sortis du piège de 2016 où la personne qui aura le meilleur profil pour gagner la primaire démocrate ne sera pas nécessairement celle qui aura le meilleur profil pour l'emporter
pour battre Trump
aux élections. Et je dirais a fortiori avec les doutes qui planent sur les qualités personnelles, l'état mental de Joe Biden. Lors
77 ans.
Même âge que Sanders, Sanders en réalité, 78, mais lors des derniers discours publics, il y a plusieurs moments de perte de trous de mémoire, etc. Et donc, il y a des inquiétudes qui commencent à apparaître. On verra si un débat en face à face fait apparaître cela à nouveau, mais ce n'est pas une question seulement personnelle. Il y a vraiment une question qui peut se poser sur la capacité d'un candidat démocrate relativement classique à aller chercher des électeurs dans une élection face à Trump après le précédent de 2016.
Lex Paulson.
Je crois que les socialistes ont fait une grosse erreur, l'aile gauche du Parti démocrate, de Sanders, en fait, grosse erreur. On prend l'analogie de droite chrétien et le Parti républicain. Les droites chrétiens, après l'arrivée de Reagan dans les années 80, ils ont décidé, OK, on va faire un takeover.
Qu'est-ce que vous appelez un takeover?
Takeover, c'est-à-dire, on va occuper des postes importants dans le Parti républicain, on va présenter nos candidats, parce que avant Reagan, Jimmy Carter était aussi un chrétien évangélique. Et donc, mais les chrétiens, ils ont dit, OK, maintenant, on se mobilise, on devient politique et on va, au fur et à mesure, faire cette prisme de parti républicain. Socialistes, ils ont dit, non, en fait, on n'avait pas besoin de parti, on va faire notre mouvement, on va faire une grande mobilisation des électeurs jeunes qui ne se sont pas mobilisés et, en fait, on va traiter les démocrates comme des ennemis, comme l'établissement corrompu. Et c'est ça le gros erreur de stratégie. Et Sanders, il n'a pas gagné à cause de cette erreur.
On va y revenir dans un instant. On écoute justement le clip de campagne récent de Bernie Sanders sur un discours de Cornel West, le philosophe américain, professeur de religion et d'histoire des Afro-Américains à l'université de Princeton, qui est considéré comme un des contributeurs majeurs des African American Studies.
That's a more than a spiritual dimension. And I thank God my dear brother Bernie Sanders has got the integrity, the gangster.
France Culture.
We got to have moral and spiritual power behind our movement. Are we going to stay together? Are we going to fight together? Are we going to go all the way together behind Bernie Sanders?
Le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Let's go.
Vous écoutez un temps du débat consacré à cette question. Y a-t-il un socialisme états-unien possible aujourd'hui au moment des élections chez les démocrates et en particulier de Bernie Sanders? Nous sommes en compagnie de Mathieu Bonzon, qui est maître de conférence en études américaines à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de Laurence Nardon, qui est responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, de Lex Paulson, qui est professeur à Sciences Po, mais également associé chez SIAM, qui est un endroit d'intelligence collective. Et nous sommes également avec vous, Mathieu Maninolex, depuis New York, aux États-Unis, dans les studios de la NPR. Vous avez posté ce clip de campagne sur votre compte Twitter très récemment. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, justement, que ce mélange entre Cornel West et Bernie Sanders ?
Ce qui est assez fascinant dans ce clip de campagne, je trouve, c'est cette énergie de ce qu'ils appellent autour de Bernie Sanders the movement, le mouvement. Le mouvement, c'est très difficile à définir. Tous les mouvements sociaux qui existent depuis longtemps, mais qui se sont particulièrement activés depuis Trump, sur la défense, par exemple, des sans-papiers, dans la question d'immigration, sur la question de justice sociale, et qui sont extrêmement actifs, y compris localement. Finalement, tous, eux aussi, à la fois individus comme organisations, des grandes organisations qui constituent ce mouvement social, se sont, elles aussi, comme finalement une bonne partie de la base démocrate, en tout cas des discussions au sein du Parti démocrate, se sont positionnées plus vers la gauche. Et donc, c'est intéressant de voir cette énergie dans ce clip, avec une dimension très très particulière, peut-être qu'on peut dire très américaine, et en même temps qui est totalement au cœur de ce mouvement, qui est cette idée de il y a une dimension spiritualiste dans ce que dit Cornel West. Il y a l'aspiration à quelque chose qui dépasse les individus, qui est plus large que les individus. D'ailleurs, parfois les proches de Bernie Sanders sont considérés comme appartenant à une sorte de culte. Mais je crois que c'est pas ça. C'est en fait ce qui se passe, c'est que c'est la transposition, et je fais très rapidement, la transposition dans l'espace politique américain, y compris dans la constellation, cette fois-ci démocrate, aux États-Unis, la transposition de ce qui se passe au sein des mouvements américains depuis assez longtemps, qui est en fait une tradition ancienne aux États-Unis qu'on appelle le community organizing, qui est organiser les gens localement pour des luttes extrêmement locales. Et donc il y a tout un savoir-faire de cela qui consiste à mettre les gens ensemble, leur faire raconter leurs histoires, qu'ils élaborent ensemble des programmes et des actions collectives. Et cela au fil des années, et particulièrement depuis l'élection de Donald Trump, mais je pense que ça date d'un peu avant, c'est transposé finalement dans la façon dont on organise les gens politiquement. Et la campagne de Sanders avait dit: je veux être l'organizer en chef, c'est-à-dire je veux être celui qui va être en gros le chef du mouvement social,
le community organizing, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et donc on va tous s'organiser les uns les autres pour faire en sorte, il disait tout le temps, ce n'est pas moi, cette campagne, ce n'est pas moi, c'est nous. Donc il y avait cette volonté d'exprimer un collectif comme ça. Et autant je pense que en effet là le mouvement s'arrête pour cette campagne pour Bernie Sanders, on passe à autre chose, on passe à la bataille contre Donald Trump, on passe très rapidement à la question du coronavirus qui va être, à mon avis, dominé à peu près tout dans notre quotidien, et même cette élection présidentielle dans les prochaines semaines et mois. Mais cette énergie-là exprimée, et que, à sa façon, reprend Alexandria Ocasio-Cortez, l'élu démocrate de New York, et d'autres, elle tout à fait continue, parce que en fait elle est portée par une génération qui, elle, sent qu'il y a une urgence sur toutes sortes de sujets.
Merci Mathieu Manuelex. Laurence Nardon, un auditeur nous dit: mais comment peut-on expliquer par exemple que Elizabeth Warren n'a pas encore apporté son soutien à Bernie Sanders? C'est ce qu'on attendait.
Alors ça, c'est ce que
sûrement Sanders attendait aussi.
C'est une excellente question, et En fait, je pense que Elizabeth Warren, en réalité, son positionnement depuis le début de la campagne, il était un peu au milieu de la route entre les modérés d'un côté et Sanders de l'autre. On la classe avec Sanders, mais en réalité, elle n'est pas du tout aussi à gauche. Elle se définit surtout certainement pas comme une socialiste. Elle se définit comme une capitaliste, mais qui veut réformer le système et revenir à un fonctionnement équitable comme il pouvait l'avoir dans les années 50. Et puis, donc, elle est plus centriste. Et puis aussi, pendant toute sa campagne, elle a cherché à rassurer l'establishment du Parti démocrate notamment. Et du coup, aujourd'hui, je pense qu'elle pourrait soit aller vers Bernie Sanders, mais en fait, elle ferait pas beaucoup de elle disparaîtrait dans la campagne Sanders, elle serait totalement absorbée. Elle pourrait aussi proposer à Biden de le rejoindre, être sa VP, sa vice-présidente ou je ne sais quoi. Et là, elle pourrait faire une beaucoup plus grande différence en réalité en tant que femme politique, parce qu'elle pourrait gauchiser de manière significative le programme de Biden qui est un peu mou pour l'instant, qui n'est pas très clair. Et je pense qu'elle hésite entre les deux aujourd'hui.
Et l'ExpoSun, pourquoi ce même auditeur nous demande pourquoi les Afro-Américains semblent préférer Biden alors que pourtant ils appartiennent aux catégories souvent les plus pauvres de la population américaine. Et donc on pourrait se dire que le discours anti-pauvreté, le discours de défense des plus pauvres et des plus démunis aux États-Unis, qui est le discours de Sanders aurait pu les satisfaire.
Pour trois raisons principalement. La première raison, c'est que Biden a passé les premières présidentielles aux États-Unis est extrêmement relationnel. C'est-à-dire que ça passe par des réseaux d'influence, des prêtres, des chefs d'associations. Et Biden, il les connaît. Il était sur le terrain depuis 30 ans. Donc ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur.
Il est élu depuis 81, je crois, Sanders. Il est aussi sur le terrain depuis longtemps.
Oui, pas en Caroline du Sud.
Pas en Caroline du Sud. Ça, c'est d'accord.
Deuxième facteur, il était le vice-président de le premier président noir. Et c'était clairement quelqu'un qui était très proche avec Obama et qui aussi se montre comme une grande présence dans l'administration Obama. Troisième facteur, c'est les Américains noirs. Ils le disent souvent, ils sont moins susceptibles à prendre des risques par rapport à une défaite contre Trump. Et donc pour eux, il y a plus à perdre. Et déjà, de trouver quelqu'un qui a plus possibilité à reconstruire la coalition d'Obama pour battre Trump, c'est ça qui les intéresse.
Mathieu Bonzon, une autre question qui ne vient pas d'un auditeur cette fois-ci, mais qui me taraude un peu, c'est ce parti qui se crée autour de Democratic Socialists of America, sur lequel vous travaillez, qui voudrait peut-être devenir un parti, c'est-à-dire qui voudrait s'émanciper définitivement de la tutelle du Parti démocrate, n'a-t-il pas fait le mauvais choix, justement, comme le disait l'ex-Paulson tout à l'heure, c'est-à-dire en disant tout compte fait que le Parti démocrate était un aussi grand ennemi ou presque un aussi grand ennemi que le Parti républicain d'une certaine façon. Est-ce qu'ils ont fait un choix, ces jeunes militants dont parlait tout à l'heure Matthew Maniodex autour de Ocasio-Cortez ou de Sanders, n'ont-ils pas fait un choix un peu radical qui leur interdit de revenir à la source du Parti démocrate?
Alors, il faut faire les proportions déjà entre la partie vraiment organisée de ce mouvement que l'on appelle DSA et donc l'organisation, les 50 et quelques mille personnes qui l'ont rejointe au cours des 4 dernières années, et puis les personnes qui sont engagées dans les campagnes électorales, sans même parler de l'électorat, les personnes qui sont mobilisées pour les campagnes électorales, que ce soit de Sanders actuellement ou bien de Ocasio-Cortez et d'autres, qui est donc un milieu beaucoup plus large. Et je pense pas qu'on puisse dire, alors autant effectivement lors de son dernier congrès DSA l'organise.
C'était en juillet dernier, c'est ça, ou en août dernier, en 2019.
L'été dernier, c'est ça, a adopté comme perspective de moyen terme l'idée que il sera impossible de réaligner réellement politiquement le Parti démocrate dans le sens souhaité politiquement par cette organisation, et donc à terme il faudra envisager une stratégie de sortie, etc., mais sans en faire une stratégie immédiate. Et je nuancerai un petit peu l'idée que ce nouveau milieu socialiste aurait fait des démocrates un ennemi et aurait finalement fait campagne presque autant contre les démocrates que contre les républicains à l'intérieur même de la primaire démocrate. Je pense pas que ce soit conforme à la réalité. Je trouve que il y a une tentative d'avoir une certaine lucidité aussi sur les tentatives précédentes, que ce soit dans les années 60 ou bien les déceptions sous Clinton, sous Obama même, qui ont en partie formé cette génération politique jeune qui soutient beaucoup Sanders et Ocasio-Cortez. Et donc, je trouve que malgré tout, ils ont plutôt essayé d'élaborer une stratégie dedans-dehors avec un certain pragmatisme et avec les limites aussi de cette stratégie sans doute, mais peut-être pas aussi frontale que ce qu'on a pu dire.
Et on peut dire, de toute façon, Laurence Nardon, que ce pays dont on pensait qu'il nous avait, ne nous réservait plus de surprises, d'une certaine façon, au point de vue, sauf l'élection d'un président noir, évidemment, avec Obama, qu'il était cantonné dans ces deux partis principaux qui ne bougeaient pas, d'une certaine façon, eh bien, ce pays nous réserve tout de même encore des surprises. C'est vrai que l'arrivée, même s'il ne gagne pas de Biden à ce stade de la campagne démocrate, par exemple, les possibilités, effectivement, que ces jeunes militants puissent, dans les années à venir, créer un nouveau parti ou du moins imaginer un autre avenir du socialisme aux États-Unis, c'est très surprenant, ça.
Oui, et en même temps, on le voit advenir depuis la crise de 2008. En réalité, avec la crise de 2008, il y a une prise de conscience aux États-Unis par les classes moyennes et leurs enfants, donc les jeunes qui sont en train d'étudier sur les campus aujourd'hui, que le système tel qu'il existe est « rigged », pour reprendre le terme de Trump lui-même, c'est-à-dire le système est truqué, et ne fonctionne plus pour les enfants de la classe moyenne. C'est-à-dire que le contrat social américain qui fait que si on travaille sérieusement, les enfants seront plus riches, ne fonctionne pas, les inégalités ont explosé avec les dérégulations de Reagan dans les années 80. Bref, il y a cette prise de conscience-là. Et donc, les idées d'un Sanders ou d'une Warren sont revenues de manière très puissante dans la société à partir de là. On n'en a pas parlé, mais on en voit la première manifestation avec le mouvement Occupy Wall Street en 2011. Là même où les jeunes inventent de nouvelles manières de faire de la politique avec autour du organizing, mais en allant plus loin que ça dans des tentatives de démocratie directe, etc. Ce mouvement s'arrête assez rapidement, mais les idées sont reprises par Sanders. Enfin, Sanders lui-même n'avait jamais changé d'idée depuis les années 60. Oui. Il avait vécu une sorte de trou noir idéologique pendant des années 80. Exactement. Des années 80 à 2008, quelqu'un comme Sanders est inaudible. Et puis tout à coup, il redevient à la mode et ce mouvement ne va pas s'arrêter, à mon avis, même si Biden est élu.
C'est ce que vous dites, Matthew Meynodex, dans votre livre Génération Ocasio-Cortez, quand vous dites que L.A. Kaufman dit l'époque est si extraordinaire que même les anarchistes font du porte-à-porte au moment des élections. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, tout compte fait, il y a de la surprise là-dedans. Comme bien Trump sûr, a été une surprise à droite, effectivement, il y a une surprise aussi de ce côté-là.
Bien sûr, d'abord, il y a cette urgence partagée par beaucoup de dégager Trump. Et ça, je pense que ça va jouer si Joe Biden ne s'effondre pas à cause, en effet, de plein de problèmes qu'il a, politiques, personnels, dans les prochains mois, ça va jouer de façon importante.
C'est une élection septuagénaire, parce que Trump a 73 ans, Biden 77 et Sanders 78.
Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation sur cette campagne. Mais en tout cas, l'envie de dégager Trump est tellement importante dans une partie de la population américaine qu'il y aura forcément des gens pour aller voter. Après, à savoir si les jeunes, par exemple, vont aller se mobiliser, si les hispaniques qui ont beaucoup voté pour Sanders et croyaient beaucoup en son programme, notamment d'ailleurs encouragés par leurs enfants qui ont fait un travail politique incroyable depuis les enfants de la première génération, de la deuxième génération, depuis 2016 et la campagne de Sanders. À savoir s'ils vont se mobiliser, c'est une vraie question.
On est obligé d'arrêter parce qu'on vous entend très mal. Je suis désolé, c'est la liaison est mauvaise. Merci Matthew Meynodex. Je redonne une dernière fois la parole à Alex Paulson.
Le 22 février, Sanders a un choix. Il a choix de soit de dire il a gagné à Iowa, à New Hampshire, il était en tête à Nevada. Et il a pu dire, OK, maintenant c'est le temps de faire alliance, de faire une coalition avec les autres membres du Parti démocrate. Il n'a pas fait. Il a dit, on est mouvement contre l'établissement et républicain et démocrate. Donc ça, c'est un choix qu'il a fait. Et je crois que maintenant, on voit les résultats de sa stratégie. Mais le organizing, c'est vrai que ça reste. Et moi, j'ai fait le porte-à-porte ici en France. J'ai fait ça au Maroc, au Sénégal, et même dans les entreprises.
Pour Emmanuel Macron en France,
pour Emmanuel Macron, et même cette idée de la mobilisation de terrain dans l'époque de réseaux sociaux, ça reste extrêmement fort pour les entreprises, pour les sociétés, et pour les associations, et c'est ça, organizing, même si le socialisme n'est pas venu aux États-Unis, le organizing a un avenir qui est très fort.
Merci à tous les quatre d'avoir bien accepté de discuter de cette possibilité d'un socialisme états-unien dans le temps du débat. Merci à vous, Matthew Meynodex. Je rappelle que vous êtes auteur de Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains. C'est donc aux éditions de La Découverte. Quant à vous, on peut écouter vos podcasts, c'est ça, Laurence Nardon?
Oui, en effet.
Ça s'appelle Trump 2020 et on les trouve sur le net sans aucun problème.
Sur toutes les applis de podcast.
Et on merci beaucoup à vous, Lex Paulson, ainsi qu'à vous, Mathieu Bonzon. On attend les résultats de vos enquêtes justement sur ce DSA, Democratic Socialist of America. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Louise André, Rémi Baille, Hugo Boursier, Manon Prissé. À la technique, Florent Bujon. Aujourd'hui, à la réalisation, Alexandre Manzanares.